Dans Face à Duhamel, on va revenir sur la visite du président ukrainien Zelensky à Paris. Hier, la France va fournir des véhicules blindés, des chars légers, mais pas d'avions de chasse, comme le souhaiterait l'Ukraine. Alors, est-ce qu'on en fait assez ? Alain Duhamel, bonsoir.
Bonsoir.
Face à vous ce soir, le député européen Raphaël Glucksmann. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous signez ce livre, La Grande Confrontation, Comment Poutine fait la guerre à nos démocraties, chez Alary Éditions. Alain, est-ce que la France en fait assez ? Alors, c'est vrai qu'on va fournir des armes supplémentaires, mais on a l'impression que l'Ukraine en veut toujours plus.
Bon, je crois que face à l'agression de l'Ukraine par la Russie, la France n'a pas eu de tentation munichoise. On a été un allié loyal, favorable aux sanctions, évidemment les appliquant, et prêt à des aides militaires, pas forcément gigantesques, mais régulières. Bon, cela dit, il ne faut pas être hypocrite. On n'a pas été non plus l'allié le plus prompt, le plus allant ou le plus généreux. On a fait moins que la Pologne, que la Grande-Bretagne, que les États-Unis. Et d'autre part, il y a forcément des ambiguïtés, notamment il y a eu deux ambiguïtés. L'une, c'est sur la volonté d'Emmanuel Macron de maintenir, tant qu'il a pu, maintenant c'est fini pour l'instant, mais enfin tant qu'il a pu, un fil avec Poutine pour pouvoir discuter. Ça a été pas agréablement ressenti à Kiev et ça a été un sujet de discussion. Et l'autre chose, c'est son idée que quand la guerre sera finie, c'est-à-dire, et il précise bien quand il y aura eu la victoire de l'Ukraine, évidemment. Quand la guerre sera finie, il faudra reconstruire un système de sécurité collective en Europe, et c'est aussi un sujet de discussion ou d'interrogation, si c'est la tradition française.
Alors, même question à Raphaël Glucksmann, on en fait assez ou pas ?
Je pense qu'on peut être nuancé dans la réponse. C'est-à-dire que...
J'espère que je l'ai été.
Oui, tout à fait. Il n'y a pas eu, effectivement, de tentation munichoise, mais a-t-on... réellement pris la mesure de ce à quoi on faisait face. Et c'est ça la question qu'on doit se poser. Et aussi la mesure du rôle de la France en Europe. Et quand on voit à quel point l'Allemagne, qui était réticente au départ à la fourniture d'armes, qui a traîné des pieds pendant longtemps, eh bien l'Allemagne vient d'annoncer un paquet d'aides de 2,7 milliards d'euros d'aide militaire et est devenue tout d'un coup le leader européen en matière d'aide à l'Ukraine. Et je crois que la France, qui a une tradition militaire, qui n'a pas fait les erreurs qu'ont fait les dirigeants allemands en se liant de manière complètement sidérante sur les 20 dernières années à Vladimir Poutine, la France avait une opportunité de s'imposer en Europe comme le leader du front de résistance à l'agression poutinienne. Et les hésitations dont vous avez parlé, les tergiversations, les cacophonies parfois dans les messages qui sont envoyés, il faut que Kiev gagne, mais il ne faut pas humilier Moscou, et en même temps, en quelque sorte, appliqué à la guerre en Ukraine, eh bien, a fait perdre du temps et de l'influence à la France en Europe. Et moi, je pense que c'est une occasion ratée, parce qu'en fait, on a eu peur à Paris, mais aussi à Berlin pendant longtemps, on a eu peur de ces fameuses lignes rouges. Vous savez, on dit, il y a des lignes rouges. Et à chaque fois, on s'est rendu compte que les lignes rouges n'étaient pas des lignes rouges. C'est-à-dire qu'on a hésité pendant longtemps sur l'artillerie, puis sur les tanks, et maintenant on hésite à nouveau sur les avions. On sait.
On dit que les avions de chasse, c'est pas tout de suite.
Oui, mais vous savez dans les institutions européennes, on sait qu'on va les donner à la fin, les avions de chasse.
Pas tout de suite, ça serait plus
justement,
simple.
Justement, c'est la grande question. C'est la grande question.
Ça, Alain Duhamel, je pose la question en tant qu'observateur. Si on veut à tout prix que l'Ukraine gagne, pourquoi pas tout de suite donner l'ensemble des moyens ?
Vous aurez remarqué que ça n'est pas simplement le cas de la France. C'est le cas également de la Grande-Bretagne qui pourtant a été tout le temps très allante et c'est le cas des États-Unis qui sont les plus puissants. Bah, c'est de même qu'il n'y a pas eu de tentation munichoise, en tout cas selon moi. De même, il y a dans la tête des dirigeants quelque chose qui ressemble à la crainte de l'escalade, c'est-à-dire le fameux livre qui expliquait les débuts de la guerre de 1914-18 et qui était les somnambules. L'idée que faute de mesures à un moment clé, on déclenche quelque chose qu'on ne voulait pas et qui peut ressembler à une catastrophe si, par exemple, ça commence par, comme on le craint toujours, la Moldavie, voire la Roumanie, et puis que ça s'étend, etc. Je suis pas en train de vous dire qu'on a forcément raison dans ce raisonnement. Je ne vous dis pas ça, mais je vous dis que c'est un raisonnement qui est une des dimensions évidentes de réflexion.
Vous le comprenez, ça, ce raisonnement ?
Je le comprends tout à fait. Je pense que c'est une erreur stratégique. Je vais vous expliquer pourquoi. à chaque fois, quand on a eu la discussion sur l'artillerie, puis on a eu la discussion sur les tanks, puis on a eu la discussion sur les missiles, à chaque fois, on a posé les termes de la même manière. C'est une escalade, attention à la réaction des Russes. Et à chaque fois, on s'est rendu compte de quoi ? Qu'on a fini par livrer avec retard, ce qui a causé des morts sur le terrain, ce qui a retardé la possibilité d'une contre-offensive ukrainienne. Et il ne s'est rien passé du côté russe. Pourquoi est-ce que les avions seraient de nature différente des missiles à longue portée ? Il n'y a aucune raison naturelle. La seule ligne rouge qu'on a fixée depuis le début et sur laquelle nous nous accordons tous, la seule ligne rouge véritable, c'est que nous n'engagerons pas nos troupes sur le front. Et d'ailleurs, les Ukrainiens ne nous demandent même pas ça. Et ils ne nous ont jamais demandé ça.
On les forme.
Depuis le début, on les forme, on les équipe, mais ce sont eux qui combattent.
On les soigne.
Et on les soigne, ce sont eux qui combattent, ce sont eux qui luttent, ce sont eux qui meurent. Et ils sont tout à fait prêts à le faire. Et j'aimerais rappeler là que si on aide à ce point l'Ukraine, et si on doit aider à ce point l'Ukraine, c'est pas par altruisme, c'est pas par solidarité ou par amour pour un peuple qui défend la liberté, c'est par intérêt.
Ça peut nous être pour les deux.
Besoin, même. Bien sûr.
Quels sont nos
intérêts ? Ce n'est pas d'abord parce que nous savons aujourd'hui que l'Ukraine est notre première ligne de défense, que chaque euro investi dans la résistance ukrainienne, c'est un investissement massif dans la sécurité et la stabilité de l'Europe.
Pardon,
parce que nous savons, vous savez, moi je préside au Parlement européen la commission sur les ingérences étrangères.
Je sais.
Et pendant 3 ans, j'ai enquêté méthodiquement sur la guerre hybride que la Russie de Poutine lance non pas contre l'Ukraine, mais contre nos démocraties, contre les démocraties européennes et contre l'Union européenne en tant que telle.
Ça veut dire quoi ? Parce que si on n'arrête pas Poutine en Ukraine, il pourrait aller plus loin, nous menacer directement ?
Mais il nous menace déjà directement. Quand les hackers russes attaquent l'hôpital de Corbeil-Essonne, que pendant des semaines, les médecins français n'ont plus accès aux dossiers médicaux des patients français, eh bien, il attaque nos institutions.
Et c'est Poutine qui est derrière ça ?
Bien sûr que c'est Poutine qui est derrière ça. Tout remonte au Kremlin. Quand les milices Wagner s'en prennent aux soldats français en Afrique, quand ils s'ingèrent dans nos élections, quand ils hackent le compte d'Emmanuel Macron en 2017, eh bien, ils s'en prennent à nos démocraties. Et donc, en fait, nous ne sommes pas étrangers à ce conflit.
S'il s'agit de dire que la Russie considère les Européens, les Occidentaux en général, mais les Européens en particulier, puisqu'on est sur le même continent, comme des dépravés, dévirilisés, dont on ne peut rien attendre de positif et donc qu'on peut essayer de dominer par tous les moyens. Bon, c'est évident que c'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit et c'est ce qu'on dit autour de lui, c'est ce que disent ses porte-paroles, c'est ce que dit Medvedev, l'ancien président, etc.
Et donc il faut lui montrer qu'on n'est pas ça.
On leur dit pas merci non plus, il faut pas exagérer.
Mais enfin, pendant des années, je vous promets, quand vous plongez dans le truc,
pendant des années, on a très peu réagi. J'ai lu votre livre de A à Z.
Ah, ben je vous remercie.
Donc je sais, non, c'est normal. Puis ça m'intéressait de toute façon. Je sais ce que vous pensez, je sais ce que vous savez. Ce que je veux dire, c'est que à la fois, il faut être solidaire, il faut proportionner les choses. Ça ne veut pas dire les retenir, mais ça veut dire avoir à l'esprit mesurer les conséquences de chaque étape. Et c'est vrai qu'il y a eu des étapes et qu'il y a des conséquences. Ce n'est pas un hasard si, par exemple, aujourd'hui, on apprend que les Russes ont cherché à intercepter 2 avions de l'OTAN, etc. Ce sont des messages, ce sont des réponses. Alors, je ne vous dis pas du tout qu'il faut être faible avec la Russie. Mais en même temps, je crois que ça fait... En même temps, si j'ose dire, je crois que ça fait partie... des responsabilités des dirigeants politiques, français, mais pas seulement français, mais ça fait partie des responsabilités des dirigeants politiques, à la fois de faire des choix, donc le choix de l'alliance et le choix de l'aide par tous les moyens dont on dispose, donc de faire ça, et en même temps d'essayer de mesurer à chaque moment ce que peuvent être les conséquences éventuelles des décisions qu'on prend.
Je crois que c'est
du bon sens.
Je suis d'accord avec ce que vous venez de dire. Je suis tout à fait d'accord avec le fait qu'il faut faire attention et qu'il faut bien évaluer les conséquences de ces actes.
Oui.
Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, le commissaire Breton, merci à lui, mobilise l'ensemble de l'Europe pour essayer de fournir des munitions. À l'armée ukrainienne et à la résistance ukrainienne. Ça fait 15 mois, que nous avons un front où les Russes tirent 70 000 obus par jour. C'est-à-dire, c'est des niveaux complètement inconnus depuis la Deuxième Guerre mondiale. On n'a plus l'habitude d'une guerre comme ça. Enfin, on ne sait même plus ce que c'est.
Et donc, surtout depuis la première, d'ailleurs, en ce qui concerne
l'artillerie. Et donc, vous avez ce front qui nécessite beaucoup de munitions. On le sait depuis, en gros, le 10e jour de la guerre. À partir du moment où les Ukrainiens ont résisté, on sait que ça va se produire. On a mis un temps fou en Europe, et dans les États membres en particulier, et en France aussi. On a mis un temps fou à se, si vous voulez, oui, à se mettre le bleu de chauffe et à se dire, il va peut-être falloir qu'on produise des armes. Mais, pourquoi? Mais parce qu'en fait, on sort de 30 années d'irénisme où on n'est plus capable de produire quoi que ce soit. On l'a vu pendant la pandémie sur les masques, on l'a vu là sur les munitions.
C'est ce que je voulais vous dire. La première des raisons pour laquelle la France n'a pas été plus généreuse en matière d'armement, c'est tout simplement qu'on n'en a pas.
Mais
une des grandes découvertes de la guerre que la Russie mène contre l'Ukraine et de l'invasion qu'elle a mis en œuvre, c'est qu'on a des arsenaux complètement insuffisants et qu'on a des munitions dans tous les domaines nettement insuffisants.
C'est pour ça que même si je ne porte pas Emmanuel Macron dans mon cœur, je suis pour l'augmentation des budgets militaires qu'il a déclaré.
Oui, et aussi pour son action vis-à-vis des Européens, en essayant de leur demander de faire des achats groupés.
Au Parlement européen, je m'occupe précisément de ces dossiers, donc je suis totalement d'accord avec ça.
Oui, mais Raphaël, vous êtes un homme de gauche, et finalement, vous êtes plus va-t-en-guerre qu'Emmanuel Macron.
Je ne suis pas va-t-en-guerre, le seul va-t-en-guerre ici, c'est Vladimir Poutine.
Que répondez-vous à ceux qui disent c'est quand même étonnant qu'un homme de gauche soit aussi déterminé à vouloir écraser la Russie ou
à vouloir protéger la démocratie et à prendre au sérieux la sécurité des démocraties européennes. Bah oui, vous savez, dans les traditions de gauche, il y a deux choses. Il y a le pacifisme d'un côté et il y a l'antifascisme de l'autre. Il y a la nécessité de résister aux dictatures. Et pour moi, c'est impensable, si vous voulez, de ne pas aider la résistance ukrainienne à triompher. Vous avez là un peuple qui vous montre ce que vaut la liberté et ce qu'on est capable de faire pour la démocratie et pour la liberté. Mais moi, ce que je trouve, c'est qu'il nous rappelle même à nous-mêmes ce que peut conduire à faire l'attachement à ces principes.
Puisque vous dites qu'il y a effectivement, à gauche, deux façons de regarder les choses. Il y a ceux qui ont des tentations pacifiques, et il y a ceux qui sont partisans de la résolution, de faire face, etc. Mmh. Parmi vos partenaires français, quels sont ceux qui, à votre avis, partagent vraiment vos thèses? À vous.
Je pense que la gauche française est divisée sur la question. D'un côté, il y a bien sûr nous, à Place Publique, à Corlalux, de ce qu'on fait au Parlement européen. Il y a les socialistes et il y a les écologistes qui sont sur cette ligne-là, d'une ligne de fermeté vis-à-vis de Poutine. D'ailleurs, d'une fermeté qui n'était pas partagée par Emmanuel Macron jusqu'en 2022, jusqu'au 24 février 2022, et nous avons toujours essayé de porter une ligne beaucoup plus ferme. Face à cela, honnêtement, on ne peut pas dire qu'on est d'accord là-dessus avec les insoumis ou avec les communistes.
Jean-Luc Mélenchon ne partage pas votre fermeté, c'est loin.
Exactement, et c'est pour ça que je pense qu'il faut la clarté et que moi, je ne m'oppose même pas la question de savoir si nous avons un projet européen commun.
Donc,
nous n'avons pas un projet européen commun. Moi, je suis pour l'Europe de la défense. Moi, je suis pour une attitude plus ferme encore vis-à-vis de Vladimir Poutine, mais pas simplement. Je suis pour une attitude plus ferme encore vis-à-vis de la Chine, de Xi Jinping. Est-ce que nous sommes d'accord là-dessus? Non. Et donc, il faut la clarté, il faut la sincérité. Enfin, je veux dire, moi, ça fait 20 ans que je me bats contre ces régimes autoritaires, donc je ne vais pas faire semblant d'être d'accord avec l'ensemble de la gauche française. Vous vous rendez compte de la gravité de la situation qu'on traverse? Mentir maintenant sur le fait que nous serions soi-disant d'accord, ce serait passer complètement à côté du caractère historique de la période que nous traversons. Il faut affirmer les États-Unis d'Europe et il faut leur donner les moyens de se défendre. La défense européenne, ça sera la grande question des échéances à venir.
Les États-Unis d'Europe, ça vous va comme formule, Alain?
Les États-Unis d'Europe, c'était la formule à l'origine de
Victor Hugo.
Victor Hugo, mais ensuite de Jean Monnet, quand même, qui a été celui qui a le plus contribué au lancement initial de ce qui maintenant est devenu.
Et là, on assiste à un retour de cette soif-là, de cette volonté-là de construire l'Europe. Et je vois bien que ça peut heurter beaucoup de gens.
Mais il y a beaucoup de gens qui, aujourd'hui, sont pour l'Europe, par exemple, mais ne sont pas du tout fédéralistes. Et puis, il y en a d'autres qui sont à la fois européens et fédéralistes. En ce qui concerne ce qui nous rapproche de notre sujet initial, ce qui se passe en Ukraine, la réponse française, qui existait déjà avant même l'attaque de la Russie, qui était de dire qu'il faut avancer vers une défense européenne, c'est un thème n'a pas fait toujours l'unanimité à gauche non plus.
Non, et c'est un bon thème, mais pour faire la défense européenne, il faut arrêter de croire que Pékin et Moscou sont plus importants pour Paris que Vilnius, que Varsovie ou que Bruxelles et Berlin. Parce que si nous voulons vraiment faire l'Europe, il va falloir renoncer au narcissisme de ces présidents qui pensent qu'ils célèbrent la grandeur de la France en allant se prosterner devant un dictateur
en
Chine.
Alors vous reconnaîtrez que c'est la tradition française et du général de Gaulle et de François Mitterrand et de tous ceux qui se sont succédés, de penser qu'il y a une spécificité française qui est une forme de souverainisme qui n'empêche pas l'Europe, mais etc., etc.
Et que la puissance française de demain, elle se construira à l'échelle européenne, avec les autres Européens, que nous n'avons plus les moyens d'une ambition qui serait narcissique franco-française, et que donc il va falloir qu'on rende l'Europe sérieuse sur la défense, mais que nous devenions de manière sérieuse réellement.
Merci Christophe, c'est terminé. Il faut qu'on soit digne de nos propres thèses. Merci à tous les deux.
Raphaël Glucksmann, je rappelle le titre de votre livre, La Grande Confrontation, comment Poutine fait la guerre à nos démocraties, à Larry Édition. Merci à tous les deux.